Les églises de Jérusalem nous proposent donc de méditer sur ce texte du livre des Actes qui évoque la première église de Jérusalem. Il nous invite donc à un retour à l'origine, à la fraîcheur des commencements, à retrouver cette proximité avec le Christ, à laisser parler l'Esprit, souffler l'Esprit en nous comme si c'était la Pentecôte pour nous, et donc retrouver comme une foi nouvelle. Et cet enthousiasme communicatif qui était celui de ces premiers chrétiens, envie vraiment de vivre cette foi du Christ, cette foi de la communiquer aux autres, comme à la Pentecôte. Et donc d'inventer des actes dans leur vie. Une vie et même peut-être une religion nouvelle. On le voit puisque dans ce texte, ils allaient encore régulièrement au temple de Jérusalem. Ils n'étaient donc pas encore littéralement de la religion chrétienne, ils étaient de religion juive, mais avec une foi renouvelée en Jésus-Christ. Et donc il fallait inventer, bâtir cette religion chrétienne dont nous avons ensuite hérité, mais qui s'est transmise, affinée, qui s'est progressivement, je dirais, bâtie de génération en génération. Et donc on nous invite à nouveau peut-être à essayer de réinventer finalement les rites, les doctrines, remettre sur le travail peut-être notre réflexion pour une plus grande fidélité au Christ, jour après jour. Alors ce texte du livre des Actes, il est visiblement exagéré. Quand on lit ce texte, ils mettent tout en commun. Et puis on nous dit qu'ils étaient tous unanimes, qu'ils étaient même tous en un seul lieu, alors que bon, il vient d'y avoir 3000 convertis la veille, et on nous dit qu'il y avait encore des convertis au jour le jour. Et puis on nous dit qu'ils avaient le moral au beau fixe en permanence, tout le temps dans l'allégresse, dans la simplicité de cœur, dans la pureté du cœur. Et puis on nous dit qu'ils trouvaient grâce auprès du peuple tout entier, comme s'il n'y avait pas un seul petit ronchon quelque part dans un coin, pas un seul athée militant peut-être, ou pas un seul intégriste, soit romain pour le culte à l'empereur, soit intégriste juif, soit intégriste grec, soit philosophe comme ceux qu'a rencontrés Paul à Athènes, qui se moquaient finalement de la foi chrétienne. Donc, le texte même, la lettre même de ce texte, de ce récit, ne fait pas mystère sur le caractère exagéré de la description qu'il nous donne. Alors pourquoi cette façon de présenter la première communauté de Jérusalem en forçant le trait finalement, visiblement? Et que faire de ce récit pour nous aujourd'hui? Alors d'abord pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont forcé le trait ainsi visiblement? Eh bien, il me semble qu'à l'époque de la rédaction de ce texte, il faudrait demander, bon, peut-être à James ou à Hervé, qui tous les deux ont fait l'école biblique et archéologique de Jérusalem, eh bien, il me semble qu'à l'époque de la rédaction de ce texte, les chrétiens savaient très bien que l'expérience de l'Église primitive de Jérusalem a abouti à un résultat, un bilan un peu mitigé. C'est-à-dire qu'ils croyaient que la fin du monde allait venir dans les 15 jours, 3 semaines, 3 mois. Et donc, comme on le voit dans ce texte, ils vendent leurs champs, ils vendent leurs outils de production. Le forgeron vend sa forge, le laboureur vend sa charrue et son champ pour vivre tout le temps en prière. Et on voit Paul, quelques années plus tard, faire des collectes dans l'ensemble du bassin méditerranéen pour les pauvres de Jérusalem. Et on voit l'Église chrétienne, eh bien, réfléchir à une foi à plus long terme, en se disant, eh bien oui, le renouvellement du monde qui est proposé en Christ, c'est comme un germe qui doit nous transformer, nous mettre en route, mais la suite, eh bien, sera à inventer de génération en génération. Et donc, quand les premiers chrétiens veulent rendre compte de cette expérience de la première église de Jérusalem, c'est fort utile. Ils ne jettent pas le bébé avec l'eau du bain, mais avec bienveillance, ils se disent, il y avait néanmoins une expérience, un souffle, un projet qui est vraiment enraciné dans la foi du Christ. Et donc, bien sûr, il va falloir voir comment cette foi, cet élan doit s'incarner dans notre vie. Et c'est ainsi, je crois, qu'il présente les choses un peu d'une manière exagérée, comme un idéal infini qui nous est proposé. Et ce texte, du coup, devient extrêmement libérant, plein d'un souffle formidable qui nous dit, voilà finalement, un peu un élan, un cheminement, un objectif, un idéal, mais ensuite, eh bien, faites au mieux, voilà. Et ça, je trouve que c'est absolument génial. Et très souvent, l'Évangile est de cet ordre, l'Évangile de Jésus-Christ. Quand Jésus dit à un jeune homme riche, « Si tu veux être parfait, si tu veux avoir la vie éternelle, eh bien, va, tu vends tout ce que tu as et tu le donnes aux pauvres. » C'est évidemment complètement impossible, ce n'est pas un projet de société. C'est impossible à appliquer, car même l'air que je respire en ce moment, je le prends aux autres, je l'utilise moi-même. Le pain que nous venons de partager ensemble lors de la préparation finale de cette célébration, ben, je l'ai possédé en le mangeant, donc je ne peux pas tout donner pour les pauvres. Mais le Christ nous dit, oui, qu'il y ait du don dans votre existence, qu'il y ait de la pensée pour les pauvres, il y a là une dynamique intéressante, un trait intéressant, une composante avec laquelle vous devez compter dans votre existence. Quand le Christ nous dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », ce n'est pas un commandement à appliquer demain matin en vous levant. C'est un élan qui tend vers la perfection, les yeux fixés vers le Père. Quand il nous dit même « Quand on te frappe sur une joue, tends l'autre », c'est une question qui nous est posée. Il y a peut-être des moments où c'est tout à fait cela qu'il faut faire. D'autres fois, on voit Jésus-Christ lui-même ne pas tendre l'autre joue, mais dire « Pourquoi me frappes-tu ?» Donc, si vous voulez, tout l'Évangile fait de nous des gens intelligents, finalement, nous donnant un idéal, voilà. Il faut aimer Dieu à 100%, aimer son prochain à 100%, aimer soi-même à 100%. Ça fait 300% pour de pauvres humains que nous sommes. Et bien ensuite, faites au mieux, voilà, faites au mieux. Faites même des miracles en faisant tenir peut-être 120% dans les 100% de votre temps, ce serait déjà formidable. Mais voilà, l'Évangile est fait pour nous rendre intelligents, nous donne un souffle, un idéal, et ensuite, eh bien, faisons au mieux, avec cette piste, avec ce cheminement, avec cette question qui nous est posée comme une interrogation de notre propre existence. Et donc, quand on relit ce texte, on peut le prendre, oui, comme une question qui nous est posée. Alors, ils étaient assidus dans l'enseignement des apôtres. Alors évidemment, on ne peut pas être 100% de notre temps, comme le dit le psaume 1er, voilà, je médite ta parole, ta loi, jour et nuit. Bon, on peut méditer un peu le jour, un peu la nuit, mais pas 24 fois 60 minutes par jour, toute notre vie, ce n'est pas possible. Mais ça veut dire, voilà, on peut fidèlement, assidûment, au rythme qui sera possible, qui sera bon pour nous, voilà, creuser ces enseignements, les faire nôtres. On peut aussi réfléchir, pas simplement à ce lien avec l'enseignement des apôtres, mais aussi à une communion fraternelle, c'est-à-dire ne pas, voilà, être dans cette tension vers l'enseignement des apôtres, mais que ça s'incarne aussi dans une relation avec mon frère, bien sûr. La fraction du pain, alors bien sûr, cette fraction du pain, c'est cette cette communion que nous célébrons encore, bien sûr, le dimanche, mais en l'appelant fraction du pain, il y a une évocation du corps du Christ qui est rompu pour nous. Donc, quelque part dans cette fraction du pain, on nous encourage à donner notre vie tout entière, à 100%, à 120%, à 300% pour Dieu. Bon, alors évidemment, faisons au mieux ensuite avec cela. Mettons notre foi en acte, finalement, qu'elle s'enracine dans une vraie recherche spirituelle, mais en même temps, d'une manière concomitante, eh bien que ce soit vraiment, oui, une vie, un engagement de notre vie tout entière, y compris avec des actes de solidarité. C'est ce que nous rappelle aussi l'Évangile, c'est ce que nous rappelle aussi la parole du prophète Ésaïe, bien sûr. Alors, le livre des Actes parle aussi de beaucoup de signes et de prodiges. Eh bien oui, ouvrons les yeux autour de nous sur les signes et les prodiges qui nous sont donnés, car ce n'était pas seulement hier. Et les signes et prodiges, nous pouvons aussi en produire des vrais signes que le Christ est vivant en nous, dans nos communautés. Des vrais prodiges, oui, en faisant effectivement des miracles dans notre existence, en ouvrant notre cœur et en faisant des miracles de réconciliation, de témoignage, de mains ouvertes, de transformation du monde, finalement. Alors oui, nous avons dans ce texte, eh bien, vraiment, je crois, une piste qui nous est proposée, mais on ne nous fait pas une leçon en disant « Voilà, vous allez tant de temps dans votre journée le consacrer à Dieu, pas une minute de moins, pas une minute de plus. Voilà, vous prierez 5 fois par jour, vous donnerez tant de pourcents de vos sous pour les pauvres. » Non, voilà. On est théoriquement jusqu'au partage total de tout ce qu'on a avec les pauvres qui sont à la porte, bien sûr. Mais ensuite, il faut bien que nous nourrissions nos enfants demain, que nous pensions à nos parents qui ont peut-être besoin. Il faut que nous pensions, puis nous ne sommes pas Jésus-Christ, nous ne pouvons pas utiliser 100% de nos ressources, de notre temps, sans un temps peut-être de repos, un temps de gourmandise même, un temps où l'argent n'est pas productif pour des choses utiles, mais comme un sabbat de notre argent, ou bien nous acceptons, nous assumons que nous avons aussi besoin d'un peu de simple joie, avec quelque chose d'agréable et de bon. Mais ensuite, combien, à quel pourcentage? Eh bien, le Christ nous invite à être intelligents, à faire cela avec discernement, et c'est pourquoi il est si utile, de s'ouvrir à l'Esprit Saint qui fonde la Pentecôte et qui est donné individuellement à chacune des personnes qui étaient là, présentes pour la Pentecôte, que ce soit chacun qui soit éclairé pour que, à l'endroit où il est, dans la situation où il sache choisir entre le temps de méditation, le temps de religion, de monter au temple, de rompre le pain, le temps de la communion fraternelle, le temps de la réconciliation avec son frère. Et tout cela, je crois que, oui, il y a une confiance de Dieu qui nous est faite. Faisons au mieux, et de toute façon, nous sommes au bénéfice de sa grâce et de son pardon. Que Dieu nous soit ainsi en aide, aux uns et aux autres. Amen.